Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a déclaré que certains pays de la région et des puissances extra-régionales envoyaient des terroristes takfiris en Afghanistan. Le Parlement irakien a approuvé à l'unanimité une législation qui criminalise toute forme de normalisation des liens avec Israël. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à aider à surmonter la crise alimentaire provoquée par le blocage de céréales ukrainiennes et russes en raison du conflit en cours, sous réserve d'une levée des sanctions contre Moscou. Et la Chine s'est estimée calomniée vendredi par le discours du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a jugé que Pékin posait le risque le plus sérieux de remise en cause de l'ordre international. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a déclaré que certains pays de la région et des puissances extra-régionales envoyaient des terroristes takfiris en Afghanistan. Ali Shamkhani a estimé que le terrorisme et le radicalisme constituaient les principales causes de l'insécurité en Afghanistan. Il a pointé du doigt les États-Unis, affirmant que Washington et ses politiques expansionnistes étaient responsables de la guerre de 20 ans en Afghanistan. Shamkhani a ajouté que les États-Unis doivent débloquer les fonds gelés de l'Afghanistan et compenser les dommages financiers qu'ils ont infligés au pays. Le haut responsable de la sécurité iranienne s'exprimait à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, lors d'un sommet régional sur l'Afghanistan. Shamkhani a réitéré que son pays avait toujours soutenu la sécurité et la stabilité de son voisin. Il a rappelé que l'Iran accueillait environ 5 millions d'Afghans sans aide internationale efficace. L'Iran a convoqué le chargé d'affaires de la Suisse, qui représente les intérêts américains à Téhéran, pour protester contre la saisie d'un navire battant pavillon iranien dans les eaux grecques. Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement protesté contre la violation flagrante par les États-Unis des réglementations internationales sur la libre navigation. Le ministère a demandé la levée immédiate de la saisie du navire et de sa cargaison. Mercredi, il a également convoqué le chargé d'affaires grec à Téhéran pour protester contre la saisie du navire. La saisie du navire battant pavillon de la République islamique d'Iran est un exemple clair de piraterie et le gouvernement grec devra en rendre compte. La République islamique d'Iran n'ignorera pas ses droits légaux et attend du gouvernement grec qu'il respecte ses obligations internationales dans le domaine du transport maritime, a-t-il ajouté. La Grèce a saisi le navire exploité par la Russie cette semaine à la suite de la demande des États-Unis. L'Iran affirme que le navire transportait du pétrole et s'est approché des côtes grecques après avoir rencontré des problèmes techniques et de mauvaises conditions météorologiques. L'Iran dit que les États-Unis ont déchargé la cargaison et cela équivaut à de la piraterie internationale. On vous lisait aussi en titre, le Parlement irakien a approuvé à l'unanimité une législation qui criminalise toute forme de normalisation des liens avec Israël. Le corps législatif a déclaré que la loi représente un véritable reflet de la volonté du peuple irakien. Il a exhorté les parlements arabes et islamiques à publier une législation similaire qui réponde aux aspirations de leurs peuples respectifs. Le projet de loi exige que tous les responsables irakiens, y compris ceux de la région semi-autonome du Kurdistan, ainsi que les institutions et les médias s'abstiennent d'établir des relations avec Israël. Le président du Parlement irakien, Mohamed Al-Alboussi, a souligné samedi dernier que les crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien devaient être arrêtés. Il a déclaré que le Parlement irakien avait pris une décision courageuse pour empêcher la normalisation des relations de Bagdad avec le régime sioniste. Une décision qui est le reflet réel et clair de la volonté du peuple irakien. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a salué cette décision historique pour contrer les tentatives de normalisation de certains pays arabes. Les Émirats arabes unis, le Soudan, Bahreïn et le Maroc ont établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020 dans le cadre d'accords négociés par les États-Unis. Les Palestiniens voient la normalisation comme un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne. L'actualité est aussi et surtout la guerre en Ukraine. Les forces russes se sont rapprochées des troupes ukrainiennes environnantes dans deux villes de l'Est alors qu'elles tentent d'étendre leur contrôle sur la région du Donbass. Les Russes sont attaqués de trois côtés pour encercler les Ukrainiens dans les villes de Sivero-Donetsk et de Lysychansk. C'est ce que disent les autorités ukrainiennes. Selon ces dernières, les forces russes ont atteint la dernière autoroute hors des villes et ont même mis en place un point de contrôle. Les responsables disent que l'armée russe ne contrôle pas la route maintenant, mais qu'elle la bombarde. Si ces deux villes tombaient, la Russie prendrait le contrôle de la province de Donbass et de Luhansk. Au cours des dernières semaines, la Russie a concentré ses combats dans la région industrielle du Donbass oriental, où sont stationnés des combattants indépendantistes soutenus par Moscou. Les séparatistes pro-russes ont affirmé vendredi avoir pris la localité de Liman, un carrefour important du Donbass, témoin de l'intensité des combats dans l'est de l'Ukraine, où Moscou semble progresser plus rapidement après des semaines d'avancées laborieuses. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de pratiquer un génocide dans le Donbass, dans l'est du pays. C'est dans un tel contexte que le président russe Vladimir Poutine s'est dit jeudi prêt à aider à surmonter la crise alimentaire provoquée par le blocage de céréales ukrainiennes et russes en raison du conflit en cours, sous réserve d'une levée des sanctions contre Moscou. La Russie est prête à apporter une contribution significative pour surmonter la crise alimentaire grâce à l'exportation de céréales et d'engrais sous réserve de la levée par l'Occident des restrictions à motivation politique, a déclaré Poutine, selon un communiqué du Kremlin lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre italien, Mario Draghi. Vladimir Poutine a assuré que les accusations occidentales selon lesquelles Moscou, depuis son opération spéciale en Ukraine, bloque les exportations de céréales ukrainiennes, n'étaient pas fondées. À Washington, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a accusé la Russie de se servir de l'alimentation comme une arme. La Russie et l'Ukraine produisent 30% de l'approvisionnement mondial en blé. La guerre en Ukraine, associée aux sanctions occidentales contre la Russie, a interrompu l'approvisionnement en engrais, en blé et en autres produits de base des deux pays. L'Occident accuse la Russie des problèmes d'approvisionnement alimentaire, de la fermeture des ports ukrainiens. La Russie affirme que l'accusation n'est pas fondée et exige le déminage par Kiev des ports de la mer Noire afin de permettre les exportations de céréales. On vous lisait également en titre, la Chine s'est estimée calomniée par le discours du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a jugé que Pékin posait le risque le plus sérieux de remise en cause de l'ordre international. Le but de ce discours était d'endiguer et de bloquer le développement de la Chine et de maintenir l'hégémonie et la puissance américaine, a estimé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Ce discours a répandu de fausses informations, exagéré la menace chinoise, il s'est ingéré dans les affaires intérieures de la Chine et a calomnié sa politique intérieure comme extérieure, a dénoncé M. Wang devant la presse. La Chine fait part de son fort mécontentement et de sa ferme opposition, a-t-il ajouté. Dans un discours très attendu sur la Chine, le secrétaire d'État de Joe Biden s'est estimé jeudi que Washington était engagé dans une vigoureuse compétition avec Pékin dans le but de préserver l'ordre mondial, mais a démenti toute volonté d'entrer dans une nouvelle guerre froide. Et pour fermer le journal, sachez que la Chine et la Russie ont opposé leur veto à un projet de résolution transmis par les États-Unis devant le Conseil de sécurité de l'ONU visant à renforcer les sanctions contre la Corée du Nord à la suite des essais de missiles balistiques effectués par celle-ci. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a accusé les États-Unis d'ignorer les appels de Pyongyang à mettre fin à leur activité hostile. L'ambassadeur de la Chine à l'ONU, Zhang Jun, a de son côté estimé, après le vote, que la démarche américaine éloignait le Conseil du dialogue et de la conciliation. Avant le scrutin, il avait souligné que son pays ne pensait pas que de nouvelles sanctions aideraient à répondre à la situation actuelle. C'était le journal. Merci de votre fidélité et au revoir. Pyongyang ukrainisé. Au siège de l'ONU ce jeudi 26 mai, la Chine et la Russie ont empêché le Conseil de sécurité d'imposer plus de sanctions à la Corée du Nord. Un double veto, donc, pour un projet de résolution américain soutenu par 13 membres et qui proposait de cibler un groupe de hackers liés à Pyongyang et de bannir les exportations de pétrole et de tabac vers la Corée du Nord. En apparence, c'est la première fois que le Conseil de sécurité se divise publiquement depuis qu'il a commencé à imposer des sanctions contre Pyongyang en 2006. Les États-Unis, qui président le Conseil, ont mis au vote cette proposition de nouvelles sanctions, alors que la veille encore, Pyongyang procédait à 3 tirs de missiles balistiques. La Chine et la Russie ne l'ont pas suivi et ont officialisé enfin les divisions sous-jacentes au Conseil sur le dossier nord-coréen. Dans la foulée, les représentants de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité réaffirment que l'intensification de sanctions contre la Corée du Nord ne ferait que dégrader la situation et n'aiderait nullement à une interaction positive avec Pyongyang. La Corée du Nord a tiré mercredi 3 missiles, dont un missile balistique intercontinental. Ces tirs interviennent alors que le président américain Joe Biden vient de conclure un voyage en Corée du Sud et au Japon. Selon Séoul, au moins 3 missiles ont été tirés depuis Sunan, dans la banlieue de Pyongyang, en direction de la mer du Japon. Le premier missile balistique a une portée d'environ 360 km et une altitude d'environ 540 km, a précisé l'état-major sud-coréen dans un communiqué. Le deuxième missile balistique a disparu à une altitude de 20 km, tandis que le troisième projectile, un missile balistique à courte portée présumée, a parcouru environ 760 km à une altitude d'environ 16 km. Les forces japonaises et américaines ont effectué un vol conjoint au-dessus de la mer du Japon, a annoncé jeudi l'armée japonaise. Le vol de mercredi a impliqué 8 avions de combat basés au Japon, dont 4 chasseurs F-16 américains et 4 F-15 japonais, a déclaré l'état-major interarmé des forces d'autodéfense japonaises. Cette manœuvre renforce l'alliance nippo-américaine et confirme les capacités combinées des deux armées. Le vol a eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a tiré 3 missiles, dont un missile balistique intercontinental, vers la mer entre la péninsule coréenne et le Japon. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, le vol conjoint nippo-américain envoie un signal de dissuasion à la Corée du Nord.